franceinter.fr.
Et pour ce premier dimanche de l'année 2017, j'ai le plaisir de retrouver Alain Bourin-Dubourg et Alain Baraton. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Julien.
Bonjour, et je crois que c'est maintenant qu'on dit bonne année à tout le monde.
Bonne année.
Oui, mais je crois qu'on a jusqu'à la fin du mois de janvier. Moi, je trouve ça très bien qu'on a un mois pour le faire, non?
Ben parfaitement, donc on commence.
Ouais, pour une fois qu'on est dans les temps.
Alors, la tradition des vœux ne se perd pas, ça c'est bien. En revanche, j'ai le sentiment, Alain Baraton, que la tradition du gui se perd.
Eh oui, eh oui. Et j'avais hésité avant de rédiger une chronique pour parler du gui. Et j'ai vu que quelques commerçants continuaient d'en mettre. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas totalement perdu. Mais il est vrai que j'ai le sentiment vraiment que cette tradition est en train de disparaître doucement, petit à petit. C'est dommage parce que cette coutume est plus ancienne que celle de Noël.
Cette coutume est ce qu'on raconte autour du gui, le gui qui posséderait des vertus magiques.
Incroyable, le gui protégerait, devrais-je dire, des sorcières. Il serait symbole de fertilité et en plus, il porterait bonheur.
Et bien avec tout ça, d'où vient l'expression « au gui l'enneuf »
Et bien voilà, alors, cette expression serait d'origine bretonne et signifie « mais je ne garantis rien ». Aguiné an eit, ce qui veut dire « le blé germe ». Il y a longtemps, très longtemps, de pauvres bougres parcouraient les villages en fin d'année en chantant « Eginae ». Et Guinaé, ils faisaient ainsi dans l'espoir de recevoir une petite pièce, et c'est pour cela qu'ils étaient appelés les étraîneurs des Aguinériens.
Alors si on veut perpétrer la tradition, comment doit-on employer le gui?
Ah oui, parce qu'il ne faut pas faire tout et n'importe comment. Dans un premier temps, il vous faut trouver un druide barbu capable de monter aux arbres. C'est pas simple, je le reconnais.
Alain Bourin-Dubourg va aller le chercher. Oui, voilà. On nous en a ramené en studio pour la semaine prochaine.
Quoique Alain sait peut-être grimper aux arbres, peut-être peut-il se laisser pousser la barbe.
Blanche.
Ensuite, il faudra qu'on fournisse à Alain Bourin-Dubourg une tenue blanche justement et une serpette en or.
Ça vous irait bien.
Oui, qu'il sera donc prié d'ailleurs de rendre après, je parle de la serpette en or. Plus difficile, il faudra trouver et localiser un chêne porteur de gui, et c'est très rare.
Et bien pourquoi?
Il faut savoir que le chêne possède la particularité de créer une sorte de barrière chimique qui empêche le gui de pénétrer dans le bois. Pour que celui-ci parvienne néanmoins, eh bien il faut que le chêne souffre d'une déficience génétique. Et c'est rare, un cas sur 1 million seulement.
Bien, admettons que le gui est localisé, détaché de l'arbre, que fait-on ensuite?
Alors, une fois coupé, vous devez l'installer dans votre maison, dans le salon, pour une soirée qui s'annonce ô combien festive. Chaque garçon qui embrasse une fille sous une branche de gui, ça ne marche qu'avec les filles, je tiens à le préciser. Ah bah, moi je respecte la tradition, doit cueillir une petite boule et en faisant ainsi, il jure son amitié. Quand toutes les baies sont cueillies, on arrête d'embrasser.
Et c'est tout?
Non, après on brûle le gui, pas facile si on vit en appartement, mais sachez qu'après cette cérémonie, ô combien facile à organiser, toutes les filles embrassées cette nuit-là trouveront un gentil mari.
Non,
c'est mignon. C'est vrai que ça fait très 2017, dit comme ça.
Je commence à comprendre suite à vos commentaires pourquoi cette tradition se perd effectivement. Mais c'est quand même charmant.
Pardon.
Il y a un petit côté un peu désuet qui est quand même agréable.
C'est vrai, je vais tenter de trouver un gentil mari alors, pour 2017.
Et bien Alain Bourin-Dubourg se laisse donc pousser la barbe pour l'année prochaine.
Pour faire mon mari?
Eh, pourquoi pas?
Okay.
Le druide et le mari.
J'en prends bonne note. Quelques questions des auditeurs de France Inter, Alain Baraton. Frédéric nous dit, une branche de mon abricotier est morte et je ne vois pas de blessure. Que se passe-t-il?
L'abricotier, certainement la plante la plus capricieuse qui souffre parfois de ce qu'on appelle en termes botaniques une apoplexie végétale. C'est-à-dire que sans que l'on sache pourquoi, une branche meurt totalement. En fait, le végétal a une force incroyable sur nous autres humains. Il est capable de sectoriser un bobo. Quand vous-même, vous avez un souci de santé, vous devez vous soigner. Et si vous ne vous soignez pas, le bobo que vous avez peut contaminer l'ensemble de votre corps. L'arbre, lui, a résolu le problème en étant capable de sectoriser et en se débarrassant de la partie malade. Il ne peut pas avoir de contamination générale. Il va donc être capable de se débarrasser de la partie dont il souffre. Et il s'avère que l'abricotier, parfois, peut avoir une piqûre d'insectes dans une branche. Un choc quel qu'il soit, on ne le voit pas. Et l'abricotier va donc purement et simplement se débarrasser de cette branche qu'il le dérange, on ne sait pas pourquoi, on ne voit rien, on appelle ça l'apoplexie, il n'y a rien à faire et aucun signe qui permet d'anticiper le problème.
Donc pas d'inquiétude, au contraire, tout va bien.
Tout va très bien, mais il ne faudrait pas que ça se renouvelle tous les ans, parce qu'un abricotier sans branche,
c'est nettement moins joli, nettement moins utile. Georges nous demande comment éliminer les tigres du platane.
Alors le tigre du platane, contrairement à ce que pourrait croire Alain Bourin-Dubourg, n'est pas un félin qui grimpe dans les arbres.
Bien sûr,
Alain, non mais je préfère quand même préciser,
parce que quand on parle de tigre, Mais c'est un insecte qui effectivement ressemble un petit peu, quand on le regarde, ou ressemblerait à un tigre. C'est une bestiole qui est arrivée en Europe en 1964. On connaît exactement son parcours. Il arrive en France, dans le sud, en 1975. Et le problème de cet insecte épouvantable, c'est qu'il se nourrit de la sève des platanes. Il va donc épuiser les platanes. Mieux, il risque même de transmettre quantité de maladies en plus. La plante affectée s'épuise à des maladies et quantité de platanes vont mourir de cette invasion incroyable. Alors il n'existe pas vraiment de produit efficace pour lutter contre le tigre du platane. Il n'existe pas non plus de trucs écolo. Simplement, j'en parle de temps en temps, les anciens avec efficacité mettaient sur le tronc et sur les branches de la chaux blanche qui limite justement et en hiver la prolifération des insectes. Et on peut également, c'est une autre technique, pulvériser à haute pression avec de l'huile de colza, l'huile végétale de colza, les branches, la ramure et le tronc, là encore pour envelopper la bestiole d'une petite pellicule, l'empêchant de respirer. Mais il est vrai que quand on a des tigres du platane, c'est pas gagné. On n'oubliera jamais en automne d'évacuer les feuilles. Pas question de les mettre sur le tas de compost cette fois, la bestiole résiste à tout. Mais il est vrai que le réchauffement climatique, Alain Bougrain-Dubourg nous en parle d'ailleurs souvent, et bien c'est l'une des conséquences. Ces petites bestioles ont traversé les océans pour venir jusqu'à nous, et maintenant le climat leur plaît. On va donc maintenant avoir beaucoup, beaucoup de problèmes pour les décennies à venir, beaucoup plus qu'on ne pourrait croire.
Merci Alain Baraton. Avant de se quitter, un conseil de lecture peut-être pour les longs dimanches de janvier au coin du feu.
Oui, mais un livre a été préfacé justement par Alain Bougrain-Dubourg.
Ah, mon
et
Dieu.
Quand Alain Bougrain-Dubourg préface un livre, généralement c'est un gage de qualité. Et ce livre, c'est La mémoire des étangs et des marais.
Ah, oui.
Il a été écrit par Jean-Michel Derex et publié aux éditions Ulmer, 22 €. Eh bien, c'est vrai que La mémoire des étangs et des marais est un excellent ouvrage, très agréable à lire, très richement documenté. On apprend quantité de choses, et bien justement sur ces zones humides. Et je vous disais, et je ne le dis pas pour flatter Alain qui est devant moi, mais il est vrai que quand Bougrain-Dubourg préface un ouvrage, généralement, c'est du lourd.
Vous commencez très bien l'année, mon petit Baraton.